France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et de 4, après Debussy, après Fauré, après Franck, Michel D'Alberto poursuit son cycle de musique française chez Aparté, le label, avec Maurice Ravel. Le disque vient de paraître avec en photo le pianiste toujours aussi impeccablement habillé comme ce matin. Bonjour Michel D'Alberto.
Bonjour, bonjour.
Aristocrate du piano, jeu aristocratique. En préparant cette interview, j'ai vu ce mot revenir à plusieurs reprises. Comment vous l'entendez, vous ?
Moi, j'imagine que beaucoup de gens pensent que D'Alberto s'écrit avec des apostrophes, ce qui n'est pas... Ça a peut-être été le cas quand nous, la famille était italienne jusqu'au 19e siècle. J'en ai aucune idée d'ailleurs. Mais non, il n'y a aucune aristocratie en France en tout cas. À la rappel,
c'est difficile d'avoir un regard sur le regard des autres.
C'est très difficile, c'est impossible même. Mais si c'est ainsi, j'assume. J'assume le jeu aristocratique, je préfère ça à un jeu vulgaire, disons.
Bon, ça vous prenez une certaine élégance en tout cas.
Ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours aimé avoir bien présenté, être bien habillé. Enfin, ça fait partie un petit peu de mon... C'est pas un personnage que je me suis fabriqué, mais c'était un peu naturel. Même quand j'étais enfant, mes parents disaient toujours « Oui, Michel, il est toujours très tiré à quatre épingles » et tout ça.
Et l'élégance du jeu, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça a un sens ?
Ça peut avoir beaucoup de signification. Moi, je l'entends un peu comme c'est un pianiste élégant, c'est-à-dire que je ne m'étale pas dans des manières sentimentales de jouer. J'essaye de mettre évidemment beaucoup de sentiments, mais j'aime assez toujours une petite distance dans tout ça. Parce que pour moi, le bon interprète, c'est celui qui laisse la porte ouverte à l'auditeur. C'est-à-dire qui n'impose pas véritablement en disant « c'est comme ça qu'il faut que ça soit joué ». C'est simplement, j'essaye de respecter le mieux possible les indications que le compositeur a écrit.
Quitte à surprendre. On y reviendra.
Tant mieux, c'est très très bien qu'il y ait de la disruption et de la surprise. Et puis, parce que j'aime beaucoup cette petite adage en latin qui dit « dura lex, sed lex ». C'est une chose que je répète souvent à mes élèves. C'est vrai que la loi parfois peut être dure à observer et à respecter, mais voilà, c'est la loi. Et en même temps, ceux qui si on veut vraiment casser une règle, eh bien, il faut d'abord la maîtriser. Donc voilà, c'est un petit peu les bases de ma conception du métier d'interprète et aussi un petit peu de ce que j'enseigne au conservatoire.
Aristocrate, mais au jeu sensuel, noble. Mais pas sentimentale, voici pourtant des valses nobles et sentimentales. Elles ouvrent ce disque de Michel D'Alberto.
Thank you.
La première des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, Michel D'Alberto, piano, c'est notre invité ce matin sur France Musique. Extrait de ce nouveau disque paru chez Aparté dans le magazine Classica. Elle n'empêche dit à propos de ces valses que vous les éclairez d'un jour nouveau, cru, dense, tragique et mystérieux. C'est vrai, cru, il y a quelque chose de... C'est pas du tout péjoratif, au contraire, mais de moins aimable que certaines versions ici. Vous disiez « Duralex, Sedlex ».
Oui, absolument. Ben, c'est écrit comme ça et il n'y a aucune raison de l'atténuer ou de le cacher. C'est une chose qu'on m'avait déjà aussi fait remarquer dans le disque « Forêt ». En fait, des quatre volumes, je crois que le disque « Forêt » est celui dont je suis le plus... fier d'une certaine, enfin, oui, qui me fait le plus plaisir dans les quatre, parce que c'était un disque difficile pour moi.
Pourquoi?
Parce que Forêt, je l'explique d'ailleurs dans le petit texte que j'avais écrit, Forêt, quand j'étais adolescent, enfin, en tout cas, au conservatoire, c'était un compositeur que je détestais. j'aimais pas du tout la musique de Forêt. J'en entendais souvent à la classe chez Perlmutter parce qu'il le faisait travailler beaucoup les thèmes et variations, sixième, septième nocturne, tout ça, des barcaroles. Et chaque fois que j'écoutais ça, je me disais, c'est mauvaise musique. Enfin, j'avais rien compris. Et puis, j'y suis venu un peu grâce à la musique de chambre et surtout aux mélodies. Et ça, je dois un grand merci alors à Jean Hubeau, qui était mon professeur de musique de chambre, et puis à Hugues Coueno, le ténor suisse, que j'ai bien connu. Et c'est lui un peu qui m'a fait découvrir tout ce monde de la mélodie française et en particulier de la mélodie foréenne. Et quand j'ai commencé vraiment à aimer Forêt, alors là, c'est devenu une sorte d'amour inconditionnel. Et maintenant, pour moi, c'est vraiment mon jardin secret. Donc, quand j'ai voulu, après avoir fait le premier volume de Debussy, bon, ça, c'était un peu classique ou attendu, je sais pas. Mais j'ai voulu faire tout de suite ce Forêt. Et on l'a fait, en plus, dans la salle de l'ancien conservatoire. Enfin, le conservatoire d'art dramatique.
Rue de Madrid.
Pardon?
Rue de Madrid.
Non, non, non.
Ah,
rue du Conservatoire.
Rue du Conservatoire.
Le Conservatoire, dans la salle historique, célèbre salle historique, où entre autres la Symphonie Fantastique a été créée. Et c'était, pour moi, ça a été vraiment un achèvement personnel, une satisfaction personnelle. Et quand j'écoute ce disque, il me plaît aussi parce que j'ai réussi à réaliser à peu près ce que je voulais dans cette musique. Et en particulier des aspects souvent crus que on essaye de mettre de côté, de cacher quand on joue la musique de Forêt, qui est mon... Et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle je n'aimais pas Forêt, c'est que je l'entendais trop jouer de manière un peu sucrée, un peu etc. Pourtant Perlmutter le jouait pas comme ça, mais je sais pas, ça voilà.
On revient à Ravel, Michel D'Alberto. Cette œuvre d'ailleurs qu'on écoutait, on écoutait la première des valses, ça fait référence aux valses nobles et aux valses sentimentales de Schubert. Vous qui avez enregistré l'intégrale Schubert chez Denon, maintenant Brillant Classique, vous avez cette référence à l'esprit quand vous les abordez ou c'est juste un clin d'œil?
C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Elles sont quand même beaucoup plus sophistiquées que celles de Schubert. On sent qu'il a passé beaucoup plus de temps à les écrire. Tandis que Schubert, toutes ces valses, ou les Ländler, toutes ces choses-là, il devait les écrire
au fil de la plume.
En 10 minutes, c'était fait, et puis voilà, c'était...
Quel est, justement, on parlait de ces choses à éviter dans la musique, quel est l'écueil principal, selon vous, à éviter dans la musique pour piano de Maurice Ravel?
De la confondre avec Debussy. Ce sont vraiment deux mondes complètement différents. C'est aussi une chose que je fais souvent remarquer à mes élèves, en particulier les élèves étrangers qui, pour eux, ça pourrait un peu, ça ressemble un peu, ça semble un peu les mêmes harmonies. Et en fait, il y a déjà une grande différence, une différence essentielle entre ces deux musiques. La musique de Debussy est une musique qui est constamment dans la flexibilité, le rubato, voilà. Et il suffit d'ouvrir une partition et de voir. Il y a plein d'endroits où Debussy marque rubato avec souplesse, voilà. Tandis que la musique de Ravel est une musique qui est assez droite, et c'est une chose à laquelle j'ai vraiment fait très attention dans une œuvre, par exemple comme dans Gaspard, on dit l'escargot. J'essaye vraiment de maintenir une pulsation rythmique Et ça, je me souviens très bien de Perlmutter quand il parlait de Ravel. Ravel, quand Perlmutter jouait pour Ravel chez lui, là, à Montfort-l'Amaury, et qui travaillait ses œuvres, Ravel insistait toujours sur le fait de surtout pas commencer à jouer trop flexible, trop rubato, tout ceci. Il aimait pas ça. Il aimait au contraire pratiquement une pulsation rythmique avec presque un peu métronomique.
Il faut rappeler, Michel D'Alberto, que Perlmutter a été votre élève. Qui a été l'élève de Maurice Ravel?
Non, il a été mon professeur.
Votre professeur? Votre professeur lui-même, élève de Maurice Ravel. Vous vous sentez héritier, d'une certaine façon? Est-ce que c'est un poids?
Un poids, sûrement pas. Je pense que ça serait un poids si je me disais j'ai été élève au conservatoire d'un autre professeur alors que Perlmutter était là et je ne l'ai jamais connu. Au contraire, c'est un privilège extraordinaire. C'est un privilège dont je ne me suis évidemment pas rendu compte quand j'avais 14 ans quand je suis rentré, ou même 13 ans quand je suis rentré au conservatoire. Mais au fur et à mesure, et même assez rapidement, parce que je me souviens avoir tout d'un coup connu un autre Perlmutter que celui de la classe au conservatoire où il était toujours en costume, cravate, etc. et où tout le monde lui disait maître. Mais un ou deux ans après que je sois sorti, je crois que j'avais 19 ans, et je l'ai retrouvé à Salzbourg où il donnait des masterclass au Mozarteum. Et j'ai assisté, j'ai m'étais inscrit. Et comme son épouse n'avait pas pu l'accompagner parce qu'elle commençait déjà à être un peu malade, elle m'avait demandé de un peu de m'en occuper et tout. Donc j'ai passé, je crois, deux semaines, jour, pas jour et nuit, mais enfin vraiment déjeuner, dîner avec lui, l'accompagner de temps en temps à des concerts du festival. Je me souviens de l'avoir accompagné à un concert de Christa Ludwig qu'il avait absolument adoré, à une Flûte enchantée aussi mise en scène par Strehler à l'époque. Et là, j'avais pu vraiment parler avec lui. C'était une autre relation, et c'est là où il m'a beaucoup parlé de Ravel, il a parlé de Cortot, il a parlé de pas mal de choses.
La première œuvre que vous avez travaillé avec lui, vous vous souvenez?
Je pense que c'est le deuxième Scherzo de Chopin, parce que...
De Ravel.
Ah, de Ravel. Alors, ça doit être la sonatine. Thank you.
modéré, le premier mouvement de la sonatine de Maurice Ravel. Michel D'Alberto au piano sur ce disque qui paraît chez Aparté et qui clôt un cycle de musique française. Vous n'allez pas continuer avec d'autres?
C'est pas prévu pour le moment, non. Non, je pense pas. D'avoir Debussy, Franck, Fauré, Ravel, c'est bien.
Vous n'avez pas envie de faire d'autres œuvres pour piano de Ravel?
Non. Non, bah d'abord il faudrait que je les apprenne et bah apprendre aujourd'hui. Oui, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont étonnées qu'il n'y ait que 3 des 5 miroirs et j'ai jamais enregistré de Noctuel ni Barque sur l'océan. Alors quitte à faire dresser les cheveux à ceux qui m'écoutent et qui connaissent ces œuvres. D'abord, Noctuel, pourquoi j'ai jamais joué? Parce que c'est horriblement difficile. Perlmutter lui-même disait qu'à son avis, c'était la pièce la plus difficile de Ravel, plus difficile que Scarbo. Et pour avoir déchiffré Noctuel, je suis assez d'accord. C'est vraiment le genre de pièce qu'il faut apprendre quand on a 18 ans, 20 ans, etc. Malheureusement, j'en ai maintenant 65. Demain et demi même, 65 et demi. Et malheureusement, c'est pas le genre de pièce que je vais apprendre maintenant. Et La Barque sur l'océan, alors là, c'est horrible à dire. Elle m'ennuie, c'est une pièce qui m'ennuie. Pas autant que le Boléro, mais quand même pas loin.
Ça fait deux aveux en direct à 8h48 voilà. D'un des grands pianistes français, d'un des plus grands pianistes français. C'est rare que quelqu'un dise « je n'ai pas joué cette pièce parce que je la trouve trop difficile à apprendre aujourd'hui ».
Oui, mais il y a plein de
pièces. Vous, professeur au CNSM de Paris.
Oui, bien sûr, oui. En revanche, je suis capable de donner un cours dessus parce que je la connais. La toccata, c'est la même chose.
Depuis
du tombeau de Couperin. Ouais. Puis il y a plein d'autres pièces. Pourquoi j'ai jamais joué la Hammerklavier? Parce que je l'ai pas travaillé quand j'avais 20 ans. Et Zerkin disait lui-même que si on l'a pas appris quand on a 20 ans, c'est même pas la peine d'essayer après. Alors voilà.
Vous avez depuis 8h30 beaucoup parlé de cet enseignement. En fait, ça fait qu'une dizaine d'années que vous enseignez
exactement,
au CNSM de Paris.
Oui, c'est ça, 2011, exactement, oui, voilà.
Comment ça a changé qu'est-ce que ça vous a appris ces 10 ans d'enseignement?
Alors, d'abord, c'était la première fois que j'avais une vraie classe, c'est-à-dire avec des élèves que j'allais suivre sur plusieurs années. Avant, j'avais fait beaucoup de masterclass, à l'occasion de visites au Japon, en Chine, etc. Mais c'est très très différent. Une masterclass, vous rencontrez des jeunes, vous les écoutez pendant une heure, vous parlez, vous leur dites quelques conseils, etc. Vous dites merci, au revoir, puis vous les revoyez plus. Tandis que là, c'est vraiment des garçons et des filles, vous vous dites, je vais les avoir pendant au moins 3 ans, 4 ans. Il y en a certains que j'ai eu pendant 7 ans, ceux qui ont fait le troisième cycle après. Donc c'est une relation qui se noue vraiment. Et comme j'aime toujours à le dire, un bon cours avec un élève, c'est pas seulement un cours où l'élève sort en se disant « j'ai pas perdu mon temps ». C'est celui aussi où le professeur se dit la même chose, où j'ai appris quelque chose, où j'ai le sentiment de pas avoir perdu mon temps. Et je peux vraiment dire que durant ces 10 ans, et je ne dirai jamais assez merci à mon ami Bruno Mantovani, qui venait d'être nommé directeur du Conservatoire de Paris, et c'est lui qui m'a dit, dès qu'il y a un poste à pourvoir, je souhaite que tu te présentes et que tu passes l'examen, puisqu'il y a un examen pour devenir professeur. Et donc, il s'est trouvé qu'il y a eu effectivement 2 postes en fait à pourvoir en 2011, et mon ami Franck Bralet et moi-même, nous avons été choisis. Et ça a changé beaucoup de choses. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus envisager ma vie sans la moitié enseignement, pédagogie, relation avec les jeunes, qui apportent énormément, et puis l'autre moitié, des concerts, des... Voilà. Ça me donne un équilibre extraordinaire.
Comment ça se passe, Michel D'Alberto, en ce moment? J'ai du mal à vous imaginer, je ne sais pas pourquoi, faire des cours par Zoom ou par visio.
Vous ne les imaginez pas, parce que simplement, je n'en fais pas.
D'accord. Parce que vous refusez de les faire?
Non, ce n'est pas que je refuse. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que un cours, il faut quand même être à côté de l'élève. On doit. Moi, je tourne souvent autour du piano quand l'élève joue, et puis je regarde comme les doigtés, les arrangements qu'il fait. Je note tout de suite un truc sur la partition. C'est très compliqué. En plus, le son n'est pas bon. Alors, ce que je demande, parce que j'ai quelques élèves chinois qui sont en Chine actuellement. Alors, ils m'envoient des vidéos je les écoute et ensuite je leur renvoie en disant
ce qui
à 1 minute 54, faites attention, c'est un fa dièse et pas un fa bécard ou des trucs comme ça.
Allez, on revient quelques minutes à Beethoven, c'était votre précédent disque et je parlais de ces interprétations qui reviennent au texte mais qui parfois peuvent surprendre, et ici, là, c'est un des tubes de Beethoven, mais dans toute la discographie de cette sonate au clair de lune, c'est l'une des plus rapides. Même que c'est la version la plus rapide, on peut regarder, nous, les durées de ce mouvement.
En revanche, le deuxième mouvement est plus lent.
Et beaucoup plus lent, l'allegretto.
Oui, parce que je fais vraiment à 3-4, et non pas à 1. Voilà.
Et c'est pas
question de pulsation.
Il ne s'agit pas de faire différent et de provoquer, Michel D'Alberto.
Non,
il s'agit de revenir.
C'est juste de dura lex, sed lex.
Beethoven, vous allez le jouer, ce sera le mois prochain, puisqu'on n'est pas
encore
décembre.
Dans 2 semaines.
Le 16 décembre pour la reprise des concerts, on croise les doigts si tout va bien, ce sera le 16 décembre, un concert lecture en fait, avec Henri de Marquette au violoncelle
oui,
et Eric Orsenin.
C'est drôle
Eric
parce
Orsenin.
Que c'est une idée qui est née lors d'un déjeuner entre Eric Orsenin et Henri de Marquette. Et moi, j'étais pas à ce déjeuner. Et Henri m'a raconté ensuite, mais Eric, tu sais, il est complètement fasciné par le personnage, par Beethoven lui-même, par tout ce qu'il a, toutes ses idées, et puis cette idée de l'Europe, de la fraternité, l'humanité, etc., etc. Et c'est de là qu'est sorti cette idée de faire, d'abord que Eric écrive, donc, tout un texte qui est absolument passionnant sur Beethoven, et puis, qu'on y mette des extraits d'œuvres avec Henri, violoncelle et piano, donc, qui sont il y a déjà des extraits des 5 sonates, qui sont parmi les absolus chefs-d'œuvre de la musique de chambre de Beethoven. Et donc, on a pu faire déjà une première fois ce spectacle en Normandie, au Festival de l'Orne en septembre. Et ensuite, on devait le faire, on aurait dû le faire normalement demain à Marseille, à la Criée, Paris, Champs-Élysées le 16 décembre, et ensuite il y avait Bordeaux, il y avait Lyon, et d'autres théâtres qui étaient intéressés. Et puis tout ça est tombé. Et puis, miraculeusement, tout d'un coup, le producteur nous dit, finalement, le théâtre des Champs-Élysées a décidé de rouvrir le 15, et on est en première ligne, le 16, et on va le faire. Donc voilà.
Rendez-vous le 16 décembre au Théâtre des Champs-Élysées pour
donc
ce concert
lecture. Ça sera à 19h, c'est un spectacle qui dure 1h30, pas d'entracte.
Et on peut rentrer chez soi avec le ticket concert d'Eurodata, c'est le chef de l'État qui l'a dit.
Absolument.
Quelques autres dates, vous serez le 23 janvier à Arles, soirée musicale d'Arles.
Espérons, moi je dis tout ça au conditionnel. Hein.
Et le 18 mai à Lyon, salle Molière. Justement, retour au concert, mais retour au concert aussi comme spectateur. On ne se connaît pas Michel D'Alberto, mais moi je vois souvent dans les salles de concert comme spectateur aller écouter vos collègues. Ça fait partie du métier. Enfin, c'est par
plaisir. Non, c'est simplement
plaisir.
Parce que j'aime beaucoup aller au concert. Je suis beaucoup allé à l'opéra, je suis un grand passionné d'opéra. Et donc
ça vous manque comme spectateur aussi?
Ah bah oui, ça. évidemment.
Ravel, le disque vient de sortir chez Aparté. Merci beaucoup d'être venu ce matin
sur
France Musique.
Merci à vous pour l'invitation.
On se quitte avec ces miroirs qui ne sont pas complets, mais vous nous avez expliqué pourquoi.
Voilà.
En tout cas, la Burrata del Grazioso est bien là. Thank you. Alborada del Gracioso, extrait des Miroirs de Maurice Ravel. C'est sur ce disque qui vient de paraître chez Alparte. Michel D'Alberto, notre invité ce matin.
À réécouter sur francemusique.fr.